Merci, Ram. Excusez-moi.
Donc ça, c'est la... Donc ça, c'est l'enseignement d'après Rav Volbe qui nous concerne tous. Savoir que quand j'ai une idée, il faut se demander, qui sort un peu de l'ordinaire, se demander qu'est-ce qui... Comme on disait en 68, d'où tu parles, camarade, hein, ça veut dire. Pas l'histoire, ouais. À partir de quoi tu... Alors, Vaïkar Korach, Korach, c'est séparé en quelque sorte. Rashi, il pose la question évidente. Qu'est-ce qui a poussé on a parlé de cette jalousie parce qu'il pensait que la position d'Evit Safan devrait, normalement, elle aurait dû arriver chez lui. En fait, la Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot que la jalousie, elle l'a fait sortir du monde. Parce que la jalousie, ça te fait Motsiet Adam Meola. Le Rambam m'explique cette Mishnah en disant la jalousie, le désir, l'amour des honneurs, etc., va entraîner quelqu'un hors du monde. La raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est que avoir ces trois midot, jalousie, tahava et l'amour pour les honneurs, la recherche du kavod, des honneurs, en fait, la raison, c'est que même si on n'a qu'une seule de ces, qu'un seul de ces défauts-là, ça entraîne obligatoirement quelqu'un à perdre sa émouna dans la Torah. Parce que c'est bien ce qui s'est passé avec lui. Mais pourquoi est-ce qu'effectivement ces trois défauts-là, spécifiquement, sont des défauts qui vont perdre la émouna, de cette manière? La jalousie, elle empêche quelqu'un de percevoir, de ressentir la hashgacha, le fait que Hachem s'en occupe. Parce que si quelqu'un pensait que jusque dans le détail, c'est Hachem qui gouverne le monde, il n'y a pas de place pour la jalousie. Qui te jalouse?
On peut jalouser. Le fait que Hachem m'a donné plus à l'un que par à moi.
Et ça, plus la jeune. Ça veut dire que
Je remets en cause.
ça veut dire que tu penses que Hachem est injuste. Donc tu as perdu ta émouna dans la Torah. Dire que Hachem est injuste, c'est pas compatible avec la Torah. La émouna dans la Torah, c'est penser que la spiritualité est une réalité. Par conséquent, l'action d'Hachem dans le monde, ça fait partie de... C'est comme ça que le monde doit fonctionner, c'est le monde d'Hachem. Et Hachem est très bien placé pour savoir comment son monde doit fonctionner. Donc tu ne peux pas être jaloux. Si tu contestes ça, tu contestes le fait de la justice, enfin, il n'y a pas de justice dans ce monde. Hachem fait injustement, sans raison, Il privilégie celui-là plutôt que celui-là. La tava, le désir, c'est quelque chose qui est entièrement et tout à fait à l'opposé d'une connexion avec la spiritualité. Dans le Chovat HaLevavot, dans l'introduction de Voir du cœur, il dit que le but de la Torah, c'est de nous permettre d'appliquer la logique pour prévaloir sur le désir. Si maintenant on est rempli de désirs physiques, de tavot, de matériel, évidemment, il n'y a pas la possibilité de considérer la spiritualité comme une réalité. Celui qui recherche le kavod, bon, il n'a pas compris que la vraie récompense, la vraie sanction, en réalité, c'est quelque chose qui se passe dans l'autre monde, dans Olam Haba. Donc, il comprend bien que ça ne vaut pas la peine de rechercher des honneurs dans ce monde-ci. Benou Yona, il écrit que les honneurs qu'on reçoit dans ce monde, d'une certaine manière, peuvent empêcher de recevoir des honneurs dans le monde à venir. Quelque part, c'est comme si on t'a déjà payé, mais on t'a payé avec de la monnaie de singe, quoi. Donner de la monnaie qui vaut dans le kavod qu'on peut avoir dans ce monde-là, ça n'a rien à voir avec le kavod. Mais donc, tu l'as perdu, le kavod, dans l'autre monde. Le Rambam, il écrit que le monde de quelqu'un, c'est sa émouna. Et donc, si quelqu'un veut travailler sur sa émouna, alors, il peut le faire, mais il y a une recette ici. Il faut diminuer la jalousie, le désir et le kavod. Bon, tout le monde sait que c'est plus facile à dire qu'à faire. La plupart des choses que nous faisons sont d'une certaine manière en rapport avec des midot. Avec ces midotes-là. Mais savoir combien ces mauvaises midotes peuvent générer de destruction, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et on est conscient de ça. À un moment donné, Korach attaque Moshe Rabbeinu et que Datan et Aviram se joignent à lui. Et qu'on accuse Moshe de toutes les sortes de mauvaises choses. Alors, Moshe Rabbeinu, malgré tout, il recherche, même dans cette situation-là, il recherche la paix, l'apaisement. Et pour ce faire, il envoie un message à Datan et Abiram. Il leur dit, venez, venez me voir. Et Rashi rapporte le Midrash qui dit que on doit déduire de la conduite de Moshe qu'il ne faut pas s'engager dans la dispute. On voit très bien que mon chien, il ne s'est pas engagé dans la dispute avec Datan. Il aurait pu répondre, donner des arguments, donc il a commencé à discuter avec eux. Non. Il les appelle pour faire la paix. Sachez, quand il dit ça, il ne veut pas simplement dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Il veut dire que faut chercher, trouver, essayer de trouver une stratégie qui va permettre d'arriver à la paix. Bien sûr que Moshe aurait pu simplement ignorer Datan Aviram. Moshe Rabbeinu, il dirige un grand peuple. Il y a deux types là qui disent du mal de lui. On sait bien que c'est pas vrai et tout. Il aurait très bien pu dire, pose toujours, ça n'a aucune importance. Mais il a quand même essayé d'organiser une rencontre pour rechercher la paix avec eux. Alors on sait bien qu'ils lui ont dit, on ne marche pas, on ne viendra pas chez toi. Alors, bien sûr, on nous enseigne que il faut essayer de d'imiter la conduite de Moshe. C'est-à-dire la capacité de ne pas être d'accord sans prendre la chose personnellement. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. La plupart du temps, quand les gens ne sont pas d'accord, leur différence d'opinion, simplement, ça fait boule de neige et ça devient une guerre. Guerre personnelle. Point qu'on en arrive à pas pouvoir se parler, par exemple. Il y avait, avant la guerre, il y a eu une grande dispute dans le monde des yeshivot concernant l'étude du Moussar. L'étude du Moussar, telle que Rav Israël Salanter l'avait définie, etc., elle a eu des défenseurs, des élèves de Rav Israël ou des élèves d'élèves, et puis il y a eu aussi eu des gens qui étaient contre le Moussar, qui pensaient, c'est effectivement ce que Rav Borber, Shiva de Kamenitz, l'élève de Chaim Brisker, Borber Leibowitz, il pensait que les gens qui se consacrent toute la journée à l'étude de la Torah, ils n'ont pas besoin de Moussar. Ils n'ont pas besoin de consacrer un certain moment, un certain temps. Comme dans les yeshivot où il y a du moussa, il y a une demi-heure de moussa, une demi-heure où on arrête d'étudier et on étudie Messilat Yesharim ou d'autres livres de ce genre-là, d'une certaine manière, à haute voix, avec l'essayant de s'imprégner de cela. Et Rav Borber, il n'était pas pour. Et du coup, celui qu'on appelle Alter le Slobodka, parce que, à cause de ce qu'il a fait par la suite, mais lui il pensait que la majorité des gens ont besoin d'études de Moussar en plus de leur étude de Torah. Et du coup, le Alter Slobodka, il a quitté la yeshiva dans laquelle il était avec Rav Borber et il a fondé une nouvelle yeshiva. OK. Donc, ça fait beaucoup de bruit, quoi, jusqu'à quitter la yeshiva, fonder une nouvelle yeshiva, fonder la yeshiva qui va devenir Slobodka. Mais quelques temps plus tard, un Borber, il a marié sa fille et il a choisi comme gendre un des plus grands élèves de l'Alter de Slobodka. Ça n'avait rien à voir. Il n'était pas opposé au Alter Slobodka personnellement, n'es pas d'accord avec lui sur le Moussa, ça doit, ça pas l'empêcher de d'avoir des relations avec de bon voisinage au point de prendre un de ses élèves comme gendre. Il y a quelque chose de plus actuel. Peut-être vous avez déjà entendu ça. On raconte, enfin on raconte, Jean était là-bas. Mais un des grands décisionnaires cette génération s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. C'est lui le maître, c'est celui qui a écrit le Shmirat Shabbat Kehilchato. Bon, c'est son maître. Un très grand décisionnaire qui est très très aimé. Je me rappelle, c'est la première fois que j'ai vu une. Il y avait toute une vidéo de l'enterrement de Rabbi Shlomo Zalman. On voit arriver les gens de tout le pays. Tout le monde est venu à son enterrement parce qu'il était très très aimé, tout le temps disponible, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'enterrement de sa femme, il a dit que, étant donné que on a toujours vécu en paix, ma femme et moi, je ne vois pas pourquoi je devrais demander pardon. Il y a un minhag que les proches demandent pardon au niftar avant qu'on l'enterre. Pardon. Et lui, il a expliqué qu'il n'allait pas demander pardon parce qu'il a toujours été en très bon terme avec elle. Il l'a expliqué en public, etc. Ça... Plus tard, il a rencontré un de ses élèves qui venait de se marier. Et il a demandé à son élève comment ça se passait. Et l'élève a dit que tout se passe très très bien et que lui et sa femme, ils n'ont absolument aucune dispute. Alors, mes amis, il a demandé, est-ce que vraiment tout va bien? Est-ce qu'elle est en bonne santé, sa femme, etc. Alors l'élève, il a dit, oui, tout va très bien, mais pourquoi vous posez la question? Pourquoi tu me charcutes comme ça? Alors, mes amis, il m'a dit, parce que c'est normal qu'un homme et sa femme, ils aient, c'est anormal qu'ils n'aient pas des divergences. Alors l'élève, il lui a dit, mais vous avez dit vous-même à l'enterrement de votre femme que vous n'avez pas de nécessité de lui demander pardon puisque vous étiez toujours en paix avec elle. Alors Abchemezan lui a dit, absolument. Mais comme les points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec ma femme, ça n'a pas du tout affecté nos relations. Je n'étais pas d'accord, c'est tout. Les relations, elles n'ont pas été. Il n'y avait aucune raison pour demander pardon du fait qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais ça ne change rien à nos relations. La vie, elle est pleine de divergences entre les gens. Mais c'est à nous de savoir est-ce qu'on veut en faire un objet de discorde, d'accord, de, est-ce que ça va affecter la qualité de nos relations ou pas? Ça a complètement dissocié le fait bon, quand on n'est pas d'accord, c'est pas. Non, je ne suis pas d'accord sur cette idée-là. Mais j'en fais pas un cas de. Si elle n'est pas d'accord avec moi, elle n'est pas d'accord. On n'est pas. Ça ne doit pas affecter les relations. C'est ça qu'on veut dire. Copier Moshe Rabbeinu, ce n'est pas ne jamais dire qu'on n'est pas d'accord. Pas d'accord. On peut tenir sa position. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Il ne faut pas que ça change quoi que ce soit dans les relations. Quand les ennemis de Moshe Rabbeinu ont approché de l'encens, etc., ils ont marché dans les tests, question. Donc, ils ont prié pour qu'Hachem soit avec eux. C'est marqué, Vayomer el Hachem. Moshe Rabbeinu a prié Hachem et il lui a dit, Al tefen el mitratam, n'accepte pas les menachot, leurs offrandes. Lo chamor echad me'em nasati, a dit, j'ai jamais utilisé la voiture de fonction. Même quand je me déplaçais pour le clan Israël, je prenais ma propre voiture. Et j'ai jamais fait de mal à aucun d'entre eux. Alors n'écoute pas ce qu'ils disent. Et sur moi. On avait dit que quand Korach et ses followers, comme on dit aujourd'hui, sont venus pour se plaindre et on sait que Moshe ne devait pas, avait pas le droit de s'imposer comme le leader, etc. Alors Moshe avait, on l'a vu, il les a invités à faire ce fameux test avec les encensoirs et l'encens. Hachem montre qui il a choisi pour diriger le clan Israël. La Torah nous dit que si Moshe Rabbeinu a prié Hachem ne pas accepter leurs offrandes, c'est-à-dire de ne pas se laisser influencer par les offrandes de ces gens-là. Rashi dit que Moshe Rabbeinu, il a voyagé, il est venu de Midian en Égypte. Il était chez Yitro, il est venu de Midian en Égypte pour sauver les bénis Israël. Et là, il a pris sa voiture personnelle, il n'a pas utilisé une voiture de fonction. Bien d'utiliser la voiture de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui aurait été si terrible s'il avait pris une voiture de fonction pour transporter sa famille de Midian en Égypte alors qu'il venait pour sauver le clan d'Israël sur l'ordre d'Hachem. Bien sûr qu'il avait le droit. Et Moshe veut dire à Hachem, je n'ai aucune néguillotte de ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai complètement net. On ne peut rien me reprocher. Parce que j'ai tiré aucun bénéfice matériel de la position qui était la mienne de leader du clan Israël. Il aurait pu dire, j'ai risqué ma vie pour le clan Israël. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Non, il n'a rien dit de tel. En fait, le test pour la grandeur de la personne, c'est l'argent. Comment il se situe par rapport à l'argent? Moshe disait que, alors qu'il était le patron, il n'a jamais pris d'argent pour ses voyages, pour ses... On voit aussi que quand Moshe Rabbeinu a collecté les dons pour construire le Mishkan, il a reçu de l'or, de l'argent, des précieuses, etc. Alors, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il avait des vêtements dans lesquels il n'y avait pas de poche. Pour que personne ne puisse penser qu'il s'en met plein les poches. L'argent est absolument nécessaire. Il faut être sûr qu'il a été gagné honnêtement. Peut-être le peuple juif, à l'égard d'Israël, à l'égard de Moïse, ils étaient absolument terribles. Parce qu'il y a cette histoire des poches. Il n'y a pas de poche pour pas qu'on puisse les soupçonner. Il y a un Midrash qui dit que quand Moïse marchait, les gens le regardaient et ils disaient l'un à l'autre, t'as vu, il a engraissé hein, depuis que. Non, il était en train de dire qu'il s'en met plein la panse. Oui. On peut s'en timbrer, je veux dire. Comme vous savez, finalement, la terre, à la demande de Moshe Rabbeinu, la terre s'est ouverte et elle a avalé Korach et Dathan, Abiram. Eux, leur maison, tout leur bien. Alors, en fait, pas seulement que Korach et ses suiveurs là ont été avalés vivants par la terre, mais dans cette façon extraordinaire, Rachid dit, bon, les femmes et les enfants aussi ont été avalés. Et Rachid dit que la gravité de cette punition nous aide à comprendre la gravité de la machloket, la gravité d'une dispute. Donc, bien que la loi juive dit que on ne peut pas on ne peut pas sanctionner quelqu'un avant qu'il soit majeur et présent. Et Hachem, le tribunal, non, mais Hachem, il ne sanctionne qu'à partir de 20 ans. Et la machloket, elle est tellement, tellement grave que les enfants, là, ils ont aussi été avalés. Donc, comment ça se fait? C'est pourquoi Hachem, il a avalé, il a fait que la terre a avalé les enfants. Ils sont pour rien, les enfants. Dans les Aseret HaDibrot, on dit que Akadosh Baruch Hu, il fait payer les fautes des pères par les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Et le Sfor nous explique qu'Akadosh Baruch Hu attend jusqu'à quatre générations pour appliquer la sanction. Parce que s'il y a quatre générations successives, il faut de la même manière, alors la faute est devenue une faute familiale, quoi. Quatre générations, on a tous la même faute, c'est devenu une caractéristique de cette famille.
Normalement, c'est trois, la Razaka, c'est trois générations.
Oui, mais c'est pas en termes de Razaka. Bien, ou bien, il y a deux chitotes. Il y a une chita, le problème, il dit que c'est seulement la quatrième génération. C'est trois, mais il faut trois entières, et la quatrième, elle bénéficie de la Razaka. Les enfants de Korach sont donc nés dans une situation de machloket. Donc l'ambiance dans laquelle ils ont vécu a laissé une avait la possibilité de laisser une impression peut-être indélébile, même sur la deuxième génération, et faire que ça devienne une partie de leur nature. De plus, le fait que leur père se soit de façon tellement terrible opposé à Moshe Rabbeinu, ça risque d'entraîner que ils vont avoir des doutes. Est-ce que Moshe est vraiment le leader? Parce que notre père, il est allé jusqu'à la mort pour contester ça. Donc, ils n'avaient pas d'autre solution, en quelque sorte, que de disparaître avec leurs parents pour éviter que la marloquette continue. Une des 613 mitzvot, c'est on ne doit pas être comme Korach et Adato. Cette mitzvah qui nous interdit de causer une marloquette s'applique même si quelqu'un a d'excellentes intentions, même si il se bat pour l'honneur d'Hachem. Personne doit être très, très, très prudente, surtout quand elle pense qu'elle se bat le Shem Shamaï. Parce qu'il peut penser que que sa cause est vraie, ça lui donne un droit de faire ce qu'il envie, quoi. Tous les coups sont permis, le Shem Shamaï. Dans la Mishnah de Avot, il y a la fameuse Mishnah, dit que toute marloquette qui est pour le Shem Shamaim, elle va durer. Et une qui n'est pas pour le Shem Shamaim, elle ne va pas durer. Rav Israël Salanter, il explique justement cette Mishnah. Il dit que quand il y a deux businessmen qui se disputent, à la fin, bon, ils vont se rabibocher, ils vont boire un coup ensemble. Mais quand quelqu'un pense qu'il agit, qu'il se bat pour l'honneur d'Hachem, il ne peut pas arrêter de se battre. L'honneur d'Hachem, il ne s'arrête pas. Toute marloquette, même la marloquette qui est motivée par la meilleure des intentions, elle peut avoir des répercussions absolument terribles. On dit du Alter de Ken, il écrit que Korach devait avoir des intentions très très élevées. Parce que sinon, jamais les encensoirs auraient pu être récupérés. Et comme vous savez, les encensoirs, ils ont été convertis, on les a martelés, et on a fait avec eux une plaque de cuivre sur le misbéach, pour que le misbéach ne soit pas abîmé par le feu. C'est de la pierre. Donc. Alors, on a mis une plaque. Cette plaque, elle était formée par tous les encens de tous les 250 personnes, plus Korach et Adato. Bon, c'est l'encens, il a brûlé. Et ensuite, on a pris ces encensoirs, on les a martelés, on en a fait une tôle, quoi, quelque part. Donc, que ces encensoirs deviennent une partie du Mizbéach, c'est pas possible si les intentions de Korach n'étaient pas très très élevées. Et donc, Et malgré ça, malgré la hauteur des intentions, ça a entraîné la destruction de toute sa famille. Donc, qu'est-ce qui peut justifier une marloquette? Si une marloquette, une Korah, c'était une marloquette très élevée, où bien sûr qu'il y avait de la jalousie dedans, mais il y avait aussi des pensées très très élevées sur tout ce qu'il pourrait faire, etc., tout ce qu'il faudrait faire et tout. Et pourtant, il y a eu, ça a débouché sur une marloquette. Toute la famille passe. Il y a encore un point. Au moment où Hachem a décidé de punir les Korah et compagnie, alors Hachem a dit à Moshe, éloigne-toi d'entre eux, du milieu de ces gens-là, et je vais les détruire en un instant. Le Ramban pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut que Moshe s'éloigne? Hachem pouvait bien entendu tuer tout un groupe de gens sans que ça touche ceux qui ne devaient pas être touchés. Hachem, il est pas, il y a pas, il va pas y avoir des effets secondaires, parce qu'Hachem ne peut pas faire les choses exactement. Hachem a effacé, il a tué les premiers-nés en Égypte et il n'a pas touché les autres Égyptiens. Il n'a pas touché non plus les enfants juifs qui étaient dans le même lit que les enfants égyptiens. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Moshe prenne de la distance par rapport à ces gens-là? Alors le Ramban répond à sa question en disant que à partir du moment où Hachem frappe, en quelque sorte, de sa colère et s'est déchaîné, tous les gens qui étaient présents auraient pu être tués. Sauf s'il y a un miracle pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Et donc on peut aussi dire, autrement, on peut dire que Akadosh Baruch Hu voulait honorer les tzadikim en permettant à tout le monde de voir le groupe de ceux qui sont épargnés, le groupe de ceux qui sont. En fait, le Ramban dit qu'il y a une autre façon de lire les choses. L'intention d'Hachem, c'était de dire à Moshe Rabbeinu, et voilà à Moshe Rabbeinu ses plans, pour qu'il comprenne que les Bnei Israël ont besoin d'une siata d'Ishmaël, d'une aide du ciel, ils ont besoin du pardon du ciel, et que Moshe Rabbeinu a la possibilité de prévenir la catastrophe s'il s'était mis à prier pour eux. Un peu comme Abraham l'a entendu quand Hachem lui a dit « Je vais détruire Sodome ». Alors Abraham dit « Mais s'il me le dit, c'est pas pour ma culture générale. C'est pour que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire? » Alors, il a prié pour éventuellement sauver Sodome s'il y avait des tzadikim. Et là, Hachem dit, le Ramban dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, en quelque sorte, par ce biais, quand il lui donne des informations, il lui dit quelque chose qui pourrait permettre ou inciter Moshe à prier pour les sauver quand même, sauver ces gens-là. En fait, il y a un autre endroit où Hachem avait fait la même chose avec Moshe. Après le veau d'or, après que les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Hachem a dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire. Et Moshe a entendu, laisse-moi, est-ce que je t'empêche? Je t'empêche de les détruire? Pourquoi tu me dis, laisse-moi, je vais les détruire? Ainsi dit que on voit, Rachid dit que on ne trouve pas que Moshe Rabbeinu était encore en contact avec Hachem à ce moment-là. Donc c'est la question de Hachem pose à Moshe. Rachid explique que il voulait dire à Moshe que tu pourrais intervenir encore. Si tu priais pour les Bnei Israël, tu pourrais obtenir une suspension ou un décalage de la catastrophe. Hachem désire que toutes les prières qui sont possibles soient faites pour les Bnei Israël. Ou en tout cas, dans un temps où on a besoin de la prière, il ne faut pas qu'il y ait une seule prière qui manque. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas prié dans toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé, ça aurait été absolument tragique. Hachem ne veut pas envoyer des punitions très trop lourdes. Mais il faut toujours la prière. Bien sûr qu'Hachem pourrait très bien décider de faire grâce, etc. Il veut que ce soit les hommes qui le demandent. La prière de Moshe aurait pu sauver tous les Bnei Israël. Alors, Rabbeinu, il disait, de la même manière, il y a beaucoup de situations qui requièrent nos prières. Que ce soit pour des raisons personnelles, des raisons communautaires. Pourquoi ne pas prendre systématiquement 1 minute pour prier pour un proche, pour un ami? Une relation, et peut-être le mieux, c'est pour prier pour le clan d'Israël. Les Israël ont besoin de prières. Hachem les veut, et nous, on a tout à gagner à ça. Donc là, c'est l'ensemble des... Enfin, quelques-uns des éléments, c'est d'après... Après Rabelbé, les éléments qui nous concernent dans cette paracha de Korah, qui a priori semblent ne pas nous concerner du tout. Donc ça nous oblige à lire plus profondément, à ne pas le lire simplement comme le récit de ce qui est arrivé au Bnei Israël. Parce que j'ai rien. Si je le lis comme ça, je n'ai rien à tirer, quoi. C'est une information. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en passant, on voit qu'il y a des fois où Moshe prie et des fois il n'a pas prié. N'a pas utilisé, on ne voit pas qu'Hachem ait prié pour les sauver. Au contraire, Moshe a dit, s'il ne meurt pas de façon extraordinaire, alors c'est la preuve que c'est moi qui ai tout inventé, quoi. C'est pas Hachem qui m'a ordonné de faire ce que j'ai fait, c'est mon invention, quoi. C'est-à-dire, Et donner raison à quoi, quoi.
Il n'avait pas déjà toutes les preuves auparavant.
Pardon, Yann?
Il n'avait pas déjà toutes les preuves d'être mort auparavant. Dire, même s'il n'était pas mort de façon extraordinaire, il y a quand même l'épisode du Sinaï et tout ça.
Non, mais il Korach, il aurait pu, Hachem, ce que demande mon cher Abénou, c'est qu'il meure de façon extraordinaire. Et qu'il ne meure pas comme, comme même. Bon, et voilà, bon, il a pris une crise cardiaque. Il faut que ça soit extraordinaire. Donc la question, c'est, ça veut dire que Moshe, il comprend que son rôle, il ne peut pas le jouer s'il ne meurt pas de façon extraordinaire. Le mal qu'il a fait est déjà tellement profond que pour compenser ce mal, il faut une mort extraordinaire. Voilà, on va s'arrêter là. Chavez.